Bon, bonjour à tous. Donc, nous sommes avec Rolando Grandi pour parler de notre fonds AI, intelligence artificielle. Donc, Rolando, pour commencer peut-être, est-ce que tu peux revenir sur la définition de l'univers d'investissement de ce fonds qui investit sur la thématique de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est purement de l'intelligence artificielle? Enfin, comment est-ce que c'est défini?
Tout à fait, merci. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Effectivement, l'univers de l'intelligence artificielle, pour nous, il est très complet. Il est complet parce qu'on cherche à investir dans toutes les entreprises qui bénéficient de ces technologies ou qui sont acteurs. Et c'est ainsi qu'on a défini un univers sur quatre profils d'entreprises, à la fois les sociétés qui vendent de l'intelligence artificielle. Je pense très clairement à des leaders comme le britannique Blue Prism, qui vend des robots digitaux. Ou encore, on aime aussi les sociétés qui adoptent la technologie. Je pense par exemple à Fanuc dans la robotique, dont les robots industriels sont de plus en plus imbibés des technologies et d'intelligence. Mais aussi on investit dans les entreprises qui fournissent de l'infrastructure d'intelligence artificielle, physique, digitale, réseau 5G, data center, et aussi des facilitateurs qui pour moi ce sont ces entreprises qui fournissent le cerveau à l'intelligence artificielle. Je pense à Nvidia, ce leader américain dans le domaine des cartes graphiques. Et donc pour résumer, un univers d'investissement vaste qui englobe la totalité des acteurs qui participent à cette révolution qui est celle de l'intelligence artificielle.
Alors c'est une définition qui est relativement large, en fait, hein, du territoire de l'intelligence artificielle. C'est un peu l'écosystème, en fait, hein, qui, tu me confirmes ça. Est-ce que c'est une définition qui a évolué depuis le lancement du fonds? C'est un fonds qui a été lancé en juin 2018. Est-ce que tu as fait évoluer la définition de ton territoire d'investissement?
Alors, je pense que la plus grande surprise et les leçons qu'on a apprises depuis le lancement de notre stratégie il y a un peu plus d'un an et demi, c'était que finalement l'intelligence artificielle est universelle. Elle est universelle parce qu'elle s'applique dans tous les domaines, dans tous les secteurs, par tout type d'entreprise, indépendamment de la taille, de la start-up à la plus grande société. Et je pense que cette technologie universelle se développe très vite aussi. Donc pour nous, ça plutôt est. On a vu surtout que les embranchements, c'est-à-dire que la technologie s'est développée dans des nouveaux domaines comme les robots digitaux, c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation, ou encore que ces technologies se développent dans les Digital Twins, ce sont les nouvelles facilités qu'on développe dans l'industrie. Donc plutôt, ça a été de voir que ces technologies proliféraient dans l'économie et que le nombre d'applications grandissait très rapidement.
Est-ce que ça veut dire que l'univers d'investissement s'est élargi?
Oui, de manière assez conséquente, parce qu'au lancement, nous comptions environ 250 entreprises avec
250 titres investissables.
exactement, ayant au moins 1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Donc, on veut se positionner sur les entreprises qui ont déjà une certaine taille. Et aujourd'hui, on est à 300 sociétés dans notre univers. Donc, une
D'accord.
progression qui s'est faite au fil et à mesure du temps.
Donc un univers qui a une capitalisation boursière minimum, tu le disais, de 1 milliard. Pour gérer un fonds sur cette thématique, d'après toi, quel est le nombre de titres idéal que l'on doit avoir dans un fonds?
Alors ça, c'était un grand sujet quand on avait préparé le lancement du fonds, c'était de savoir si on avait suffisamment de profondeur dans notre univers d'investissement. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'entreprises pour constituer une stratégie dédiée à cette technologie? Et la conclusion était qu'initialement, oui, on avait un grand nombre, ces 250 entreprises, qui continuent à grandir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur un nombre suffisant, mais qui en plus est en croissance par deux facteurs. Il y a de plus en plus d'introductions en bourse, des nouvelles sociétés privées qui rentrent dans les marchés financiers publics pour lever des capitaux et continuer son chemin d'investissement. Mais aussi, on retrouve de plus en plus d'entreprises existantes qui se transforment dans l'intelligence artificielle, ce qui représente un deuxième vivier des valeurs pour nous.
Mais combien de titres alors dans le fond aujourd'hui?
Alors, dans le fond, on est sur une fourchette assez serrée entre 25 et 35 sociétés. Donc, une volonté de se limiter aux meilleures idées, aux plus fortes convictions, par discipline d'investissement.
Alors on a parlé de la taille de cet univers d'investissement qui est relativement profond finalement, donc qui offre beaucoup de possibilités. Si on regarde un peu la géographie de cet univers d'investissement, quel résultat a-t-on?
La première observation, c'est qu'on a beaucoup des sociétés américaines. Américaines parce qu'on est dans l'évolution des plusieurs vagues technologiques passées qui aujourd'hui arrivent à trouver un point de convergence technologique qui est l'intelligence artificielle, puisqu'on capitalise sur l'essor de l'Internet, l'apparition des smartphones, le big data et le cloud qui ont chacun d'entre elles amené ce développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et aux États-Unis, on est bien placé pour avoir un grand nombre de sociétés qui sont dans ce domaine. Mais je pense aussi à la Chine, qui est le deuxième pays le plus représenté dans notre univers d'investissement, puisque c'est aussi le pays qui investit le plus derrière les États-Unis en intelligence artificielle. Et j'évoquerai aussi la présence des pays émergents. Par exemple, en Amérique latine, on a retrouvé des dossiers très intéressants au Brésil ou en Argentine, ce qui montre qu'on est face à une technologie qui n'a pas de frontières.
Et qu'en est-il de l'Europe, alors, dans cette géographie mondiale ?
Alors, l'Europe est un sujet très intéressant. Très intéressant parce que l'Europe compte plusieurs atouts. Humain d'abord, des très bons chercheurs. La France est souvent remarquée par ses capacités de recherche et les entreprises internationales l'évoquent et ils recrutent beaucoup des Français, par exemple. Mais je pense qu'on a certaines contraintes liées à la réglementation, notamment la gestion de la donnée, ce qui rend un peu plus difficile l'accès à la data pour certaines des entreprises et donc une présence un peu plus faible dans notre univers. Mais tout de même, on a quelques dossiers comme Blue Prism, cette société anglaise qui est fantastique et un leader mondial dans cette nouvelle technologie des robots digitaux. Ou encore, je pense à Adyen dans les paiements, société néerlandaise qui est très intéressante.
Bon, on reparlera de Blue Prism à la fin parce que robots digitaux, je pense que ça nous évoque à tous pas grand-chose. Donc, il faudra que tu définisses un peu ce que c'est. Alors, c'est souvent une remarque que l'on a et c'est souvent une question que l'on a. C'est finalement, est-ce que c'est un univers sur lequel on arrive à trouver des sociétés qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui ont déjà une profitabilité, ou est-ce qu'on est dans un univers tellement émergent finalement qu'on est obligé d'investir sur des sociétés qui sont plus des projets que des entreprises qui ont une activité aujourd'hui?
Alors, ce qui est assez intéressant dans notre univers dans l'intelligence artificielle, c'est que les entreprises ont un rythme de croissance très élevé. Alors ça, c'est assez naturel quand on pense à cette boulevard de croissance que l'intelligence artificielle offre aux entreprises qui s'élancent dans cette aventure. Et pour donner un chiffre au niveau de notre portefeuille, nos entreprises, en médiane, devraient voir croître leur chiffre d'affaires de 23% par an pour chacune de 3 années à venir. Alors ça, ce sont des chiffres assez objectifs, puisqu'il s'agit du consensus Bloomberg, ce qui montre quand même, lorsqu'on contraste ce 23% face aux 3% de croissance du PIB mondial, qu'on est sur un rythme très différent, très soutenu, très élevé. Tu as évoqué la question des bénéfices, Pierre, et je dirais que 90% de nos sociétés en portefeuille sont rentables et génèrent des bénéfices. Les 10% restants devraient l'être dans notre horizon des valorisations, qui est de 3 ans. Donc finalement, on est sur un portefeuille qui a des perspectives de croissance élevées, une rentabilité existante, mais aussi élevée, puisqu'on est souvent dans le domaine du digital, où la rentabilité marginale, on va dire, le produit qui est vendu en plus, amène pratiquement 100% des marges. Donc c'est assez intéressant comme business model aussi.
Donc ça veut dire qu'on peut constituer un fonds sur cette thématique en respectant, je dirais, les règles traditionnelles de l'analyse fondamentale.
Oui, c'est qui est un point très rassurant parce que je pense qu'on n'est pas sur des métriques ou des indicateurs
oui, des
différents.
Des ratios ou des paramètres de valorisation différents d'une autre catégorie.
On rentre tout exactement sur des méthodes de valorisation tout à fait traditionnelles puisqu'on est sur des sociétés qui ont déjà un business model existant, qui sont souvent dans une transformation vers le digital, vers l'intelligence artificielle, et donc déjà une activité existante, des cash flows existants, mais qui accélèrent grâce à ces technologies.
Et alors, quels sont les ratios que vous allez privilégier avec ton équipe dans cet exercice de sélection de valeurs?
Alors nous, on va beaucoup regarder, ça dépend du type d'entreprise. Et les entreprises des software dans les solutions digitales, par exemple, on va plutôt regarder pour les plus jeunes entre elles le chiffre d'affaires, combien de fois on paye le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et pour celles un peu plus matures, je pense à Adobe, ou je pense à cette société très connue par leur logiciel de Photoshop, on va plutôt utiliser le cash flow, la génération de trésorerie de la part de l'entreprise. Et ensuite, pour les entreprises industrielles, par exemple, on va plutôt bénéficier des bénéfices par action comme indicateur de valorisation.
Donc on peut utiliser finalement, puisque ces sociétés ont un compte de résultat avec un résultat là, en bas, on peut utiliser des ratios traditionnels en fait. On n'est pas obligé finalement de sortir d'un regard traditionnel pour investir sur ce secteur.
Non, absolument. Et c'est ça que je trouve aussi très rassurant, c'est qu'il montre que cette révolution se porte dans un cadre existant, mature. On n'est pas en train de créer des nouveaux marchés, on est en train de les disrupter, c'est-à-dire d'amener des solutions à plus forte valeur ajoutée qui ont plus grande aussi valeur pour les consommateurs, les utilisateurs, et donc ça sert une demande existante.
Alors, il y a un sujet sur lequel on nous pose souvent des questions, c'est la volatilité du fonds, en fait. Parce que tu le dis, tu ne monitores pas la volatilité. Et la question qu'on nous pose, c'est pourquoi tu ne monitores pas, enfin, pourquoi tu ne contrôles pas, pour parler français, la volatilité du fonds.
C'est vrai que c'est une question qui ressort souvent, puisque les stratégies montrent une volatilité, une fluctuation un peu plus forte que son indice des références. Et je pense que ça vient de notre volonté de se focaliser sur la génération des performances. C'est qu'on préfère restituer à nos clients et partenaires une performance élevée, une surperformance par rapport à notre indice des références et d'autres vecteurs d'investissement dans l'intelligence artificielle, et avoir une moindre attention sur cette volatilité. Ce qu'on remarque tout de même, c'est que les stratégies se portent très bien en phase des hausses et qui résistent en phase des baisses et généralement en ligne avec le marché. Ce qui fait que cette asymétrie dans notre construction des portefeuilles génère de la performance sur la durée, chose qu'on a observée depuis le lancement de la stratégie.
Et un mot sur la mobilité au sein du fonds. Est-ce que, bon, il est assez récent, hein, puisque je l'ai dit, là, c'est un fonds qu'on a lancé en juin 2018, mais est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de mobilité au sein de ce fonds-là? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ton équipe et toi-même, vous êtes actif, en fait, la mobilité des différents titres?
C'est vrai que c'est assez important. Être mobile, c'est dire être lucide par rapport aux risques qu'il y a sur le marché, parce qu'on agit sur un environnement qui est très incertain. Et donc, pour faire face à cette incertitude, on met en place des règles. C'est-à-dire, on a un processus d'investissement qui est très discipliné. Cette discipline, elle s'est traduite par la sélection des titres et par sa valorisation. Comme je le disais, on se projette sur un horizon de 3 ans pour valoriser une entreprise. Et en fonction du niveau de valorisation obtenu, on va constituer notre portefeuille. C'est pour ça que lorsque nos clients et partenaires observent notre reporting de fin des mois, on voit que les poids des 10 premières lignes sont très variés. Ça va de la plus grande conviction qui est à 9% à des entreprises qui vont se retrouver autour de 2-3%. Cette différence est le fait qu'on trouve des potentiels différents dans chacune des entreprises et celle qui a le plus grand potentiel représente notre principal poids. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on a des mouvements de marché, que lorsqu'on a des changements des perspectives, ces niveaux de valorisation vont changer et donc le poids va changer. Ce qui entraîne cette mobilité que nous avons en portefeuille, mais qui n'est que la résultante de cette application d'une discipline de gestion qui est très forte dans notre processus d'investissement.
Alors, une discipline qui a bien fonctionné en 2019, puisque la performance du fonds a été de 38%. Comment expliquer cette performance qui semble très, très importante sur cette thématique?
On sait que 2019 a été une très belle année pour les stratégies. De manière générale, les actifs financiers se sont très bien portés pendant l'année. Et c'était d'ailleurs une année où on voyait tous les voyants en vert. À la fois, l'économie s'est stabilisée après une année 2018 très difficile, les banques centrales qui étaient derrière les marchés pour les soutenir de manière très importante. Et le portefeuille s'est plutôt démarqué grâce au choix des titres. C'est-à-dire nos premières convictions ont été celles qui ont amené la plus forte performance au portefeuille, ce qui valide, je le pense, cette construction que nous avons. Si je regarde par rapport à mes principaux contributeurs en portefeuille, je retrouve Alteryx. Alteryx, qui est la plus grande conviction du fonds depuis milieu ou fin 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est une entreprise qui sans cesse a réussi à se réinventer, a réussi à pénétrer encore plus les clients, à élargir ses marchés dans lesquels elle est présente, et donc à alimenter sa croissance tout en permettant de restituer cette performance fondamentale en performance boursière. Et c'est aussi donc notre meilleur contributeur en 2019. Donc je pense que cette construction de portefeuille dans lequel on pousse nos investissements vers les plus grandes convictions est très intéressante puisque ça permet aussi de surperformer dans la durée.
Est-ce qu'il y a eu des échecs en 2019 de sélection de valeurs?
Ah oui, ça malheureusement il y en a toujours. Mais Peter Lynch, ce grand investisseur américain, le disait toujours, il faut avoir raison 6 fois sur 10 pour être un bon gérant sur la durée. Et donc oui, tout à fait, nous avons eu quelques échecs. Je peux par exemple te parler, Pierre, de SoftBank, une société japonaise, un conglomérat très intéressant puisque principal actionnaire d'Alibaba, ne serait-ce que cet investissement financier qu'ils ont dans Alibaba couvrait la totalité de la capitalisation boursière de l'entreprise, ce qui veut dire que le reste des activités n'était pas valorisé. Donc plutôt une optionnalité intéressante. D'autant plus intéressante que ces conglomérats avaient lancé un fonds d'investissement dans le non-coté des 100 milliards de dollars pour investir dans l'intelligence artificielle. Et du coup, pour nous, c'était un bon moyen de s'exposer à toute la partie non-cotée en bourse de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, le management a fait des mauvais investissements comme Uber, comme WeWork, et donc l'histoire a déraillé. Ça a entraîné pour nous de manière systématique une sortie, puisqu'on est très discipliné, on ne s'attache pas émotionnellement à une valeur. Et lorsque le cas d'investissement ne fonctionne pas ou sort du cadre qu'on avait anticipé, s'entraîne sa vente, c'est ce que nous avions fait.
Alors, bon, on a parlé de 2019, passons à 2020. Comment se comporte le fonds cette année?
Alors, 2020, une année aussi intéressante, je dirais qu'elle est rythmée par deux temps. En premier temps, des hausses très notables, jusqu'au 19 février environ, où finalement, tout était un peu comme en 2019, tous les voyants étaient au vert. Difficile était celui qui pouvait envisager un scénario négatif qui pouvait dérailler cette reprise économique, ces soutiens des banques centrales. Et je pense d'ailleurs que personne n'avait anticipé en 2019 qu'en 2020 on allait connaître ces risques de santé liés au coronavirus. Donc sur cette première partie de l'année jusqu'au 19 février, très positif, en fond, intelligence artificielle qui fait trois fois mieux que son indice des références. Et depuis, on a connu une baisse sensible sur l'ensemble des marchés financiers. Cette baisse sensible, je remarquerai d'ailleurs la résilience de notre stratégie, puisque malgré cette forte performance à la hausse, à la baisse, nous sommes en ligne avec notre indice des références, donc on baisse au même niveau que l'indice, ce qui fait que tout dans tout, depuis le début de l'année, nous maintenons une très forte avance par rapport à notre indice, et nous sommes d'ailleurs encore en positif depuis le début de l'année.
Alors, justement, une question sur la thématique. Quelle est, d'après toi, la sensibilité de cette thématique au cycle économique? Est-ce que, finalement, elle te semble un peu immune? Si oui, pour quelle raison? Ou est-ce que, finalement, elle est très, très exposée à la cyclicité économique? Quelle est ta réponse?
Alors, c'est un élément qui est très intéressant à regarder, puisqu'on se demande, en cas de récession, par exemple, comment ce type de stratégies peuvent réagir. Nous, on le regarde au-delà de l'angle marché. On s'attache à l'angle fondamental, l'activité des entreprises. Comment va-t-elle être impactée en cas de récession économique, des crises financières, des crises économiques? Ce qu'on constate, et on le regarde souvent dans les contacts que nous avons avec nos entreprises, c'est que ces pôles d'investissement, donc la demande auxquelles bénéficient nos sociétés, est très résiliente. Très résiliente parce que la transformation digitale, la cybersécurité, la santé, des domaines de prédilection pour l'intelligence artificielle sont privilégiés indépendamment du cycle économique. Puisqu'on n'est pas sur des investissements, je dirais, des commodités, on est véritablement sur des investissements de survie pour ces entreprises qui achètent des solutions d'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, optimiser leur processus industriel, améliorer leurs ventes et leurs relations commerciales. Tout cela fait qu'on pense qu'en cas de récession, ce type de stratégie devrait bien se porter puisque bénéficiant d'une demande séculaire qui devrait se porter sur un temps long et non pas sur un temps court.
Finalement, des dépenses qui seraient moins coupées par les entreprises en cas de ralentissement que d'autres types d'investissements parce qu'elles sont essentielles pour leur avenir.
C'est ce qu'on pense, oui, tout à fait.
D'accord. Alors, on a parlé un peu de 2020. Sur le fond, tu nous as parlé d'Alteryx. Peut-être tu peux nous dire un tout petit peu ce que ça fait. Et puis, un ou deux autres dossiers, peut-être, qui sont, d'après toi, des dossiers emblématiques dans le fond aujourd'hui et que tu nous recommandes de regarder de plus près.
Très clairement. Alors, Alteryx, c'est la plus belle histoire qu'on a en portefeuille. C'est une société américaine qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui était assez avant-gardiste, puisque leur solution était de proposer des outils pour automatiser la gestion des données, c'est-à-dire faire du nettoyage des bases de données, optimiser les bases de données pour qu'elles passent ensuite à la moulinette des ratios, etc. Et c'est une tâche, d'ailleurs, ça m'avait surpris quand on avait étudié l'entreprise, qui pouvait occuper jusqu'à 60% du temps d'un ingénieur de la data, préparer ces données avant de les travailler. Donc cette société amène des solutions d'automatisation intelligente, puisque c'est une intelligence artificielle qui fait ce traitement. Et depuis, l'entreprise a développé son offre pour permettre toute une myriade d'outils pour faire de l'analyse, ce qu'on appelle du big data. Ça, c'est très intéressant parce que la société, en plus, est en train de démocratiser l'accès à ces outils, ce qui veut dire que tout employé dans une entreprise peut saisir ces outils, utiliser des données générées par la société, constituer, créer ses propres modèles d'analyse et avoir ensuite des nouvelles idées, des nouvelles approches pour son activité. Donc une entreprise qui croît très vite, qui est notre principale conviction.
Qui a un chiffre d'affaires et un résultat.
Exactement, un chiffre d'affaires en croissance d'ailleurs, si on le regarde pour les trois années à venir, de 35% par an pour chacune des années à venir.
Alors deuxième idée.
Alors la deuxième, c'est en plus dans ce contexte du coronavirus, c'est une entreprise qui s'est très bien portée, c'est l'entreprise Pingan Good Doctor. C'est une société chinoise qui propose une solution de télémédecine. Alors, l'intérêt de cette solution, c'est que c'est une application sur un smartphone qui permet à chaque utilisateur en Chine de pouvoir se connecter à un docteur qui va lui faire un diagnostic médical comme n'importe quel médecin de ville. L'avantage, c'est que pour 80% du parcours médical, c'est une intelligence artificielle qui va diagnostiquer le patient. C'est aujourd'hui plus de 656 000 consultations quotidiennes. Et d'ailleurs, la société a vu que pendant cette période du coronavirus, l'activité dans la plateforme a augmenté de 10 fois. Donc, un vrai succès qui amène, au-delà du succès de la plateforme, une vraie solution. Une vraie solution pour l'accès à la santé. Il va de soi de rappeler qu'en Chine, les temps d'attente moyens aux urgences est de 3 heures pour des consultations de 8 minutes. Et donc, cette société propose un accès à la médecine de manière instantanée. Et en plus, dans le cas actuel que nous vivons dans le monde, très difficile pour cette situation du coronavirus, complètement adapté à ce type de crise de santé.
Donc, une entreprise intéressante dans l'environnement dans lequel nous sommes, tout particulièrement en Chine. Une troisième idée ?
Une troisième que j'aimerais évoquer, c'est une société brésilienne, pour montrer peut-être aussi que l'intelligence artificielle peut se développer partout dans le monde. C'est la société Stone, une société tournée vers les solutions des paiements digitaux, qui est en train de permettre à toute entreprise au Brésil, dès la plus petite aux entreprises moyennes, à pouvoir accepter des cartes de crédit pour faciliter les paiements digitaux. Cette entreprise est très intéressante, elle est présente dans notre univers d'investissement, puisqu'elle utilise l'intelligence artificielle à tous les niveaux. C'est d'ailleurs un des premiers cas de gouvernance où l'intelligence artificielle joue un rôle des décideurs dans l'entreprise. Ils ont constitué une IA, une intelligence artificielle, qui permet de prendre des décisions, comme par exemple, où est-ce qu'on va ouvrir un nouveau bureau pour avoir une activité commerciale. C'est l'intelligence artificielle qui va décider en fonction de toutes les données qui sont générées par l'entreprise. Ou encore, pour avoir de la réactivité face aux clients, c'est un des gages des valeurs de cette société, c'est soit une intelligence artificielle qui va répondre aux demandes des clients en temps réel, sans besoin d'attendre personne. Donc, un cas appliqué d'intelligence artificielle qui est fantastique au Brésil, avec une équipe entrepreneuriale qui est vraiment passionnante et très enthousiasmante lorsqu'on les rencontre, et en plus de la croissance et une rentabilité qui est élevée, puisque les résultats qui ont été publiés la semaine dernière indiquent que la société a une rentabilité nette de 30%, ce qui est extrêmement élevé.
C'est une société que tu as rencontrée.
Exactement.
Comme toutes les sociétés d'ailleurs qui sont dans le fond.
Tout à fait fidèle à l'identité et l'ADN de la financière de l'échiquier. Même si nous sommes sur un univers global, c'est très important pour nous d'aller rencontrer ces sociétés, rencontrer le management, connaître les produits, les pays dans lesquels elles évoluent et donc pouvoir mieux investir.
Bon, ben Rolando, notre temps arrive à échéance. Peut-être juste un mot donc, pour répéter deux, trois points que tu as mis en avant. Donc, je pense que d'une part, on a aujourd'hui un territoire qui nous paraît suffisamment large, disais 350 valeurs investissables en respectant une borne basse en termes de capitalisation boursière de 1 milliard, donc des valeurs liquides. L'essentiel de ces valeurs sont des valeurs profitables. L'essentiel de ces valeurs ont une activité prouvée, donc on utilise en fait pour investir sur ce territoire-là des outils qui sont des outils de valorisation fondamentale. On ne valorise pas des projets ou des business plans. En fait, on est dans la réalité de l'activité. Beaucoup de croissance, beaucoup plus de croissance que la croissance mondiale, puisque tu nous le disais, en fait, on est à une croissance moyenne de l'ordre de 23%, alors que la croissance mondiale, tu parlais de 3, mais probablement sera inférieure à 3 si les événements sanitaires que l'on vit perdurent. Et puis, finalement, aussi, je pense quelque chose qui me semble important à souligner, un territoire, ou du moins des entreprises qui ont une activité qui nous paraît plus immunisée des variations du cycle économique, puisque finalement, c'est un territoire essentiel d'investissement pour les entreprises aujourd'hui, puisque c'est la productivité d'aujourd'hui, et c'est une optionnalité, je dirais, pour être plus performant dans le futur, et donc probablement des entreprises qui seront prudentes quand elles regarderont ce budget-là et n'y toucheront pas. Donc, plutôt une meilleure visibilité que sur beaucoup d'autres secteurs. Est-ce que c'est un bon résumé ?
Oui, tout à fait, Pierre. Remarquable. le résumé.
Bon, alors merci à tous et puis à très bientôt le mois prochain pour un nouvel exercice donc en direct avec la financière de l'échiquier.